Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Pourquoi la connaissance nous ouvre-t-elle des portes dont l'entrée nous est interdite?
Ça, c'est une terrible question.
Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoy pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Pouvons-nous connaître du monde? À quelle partie de la réalité la connaissance scientifique nous fait-elle accéder? Pourquoi est-il essentiel de lui assigner des limites, au risque de produire des tempéraments mélancoliques ou sceptiques, qui, puisque nous ne pouvons pas tout connaître, se résignent à ne rien connaître du tout? Ni sceptique, ni dogmatique, l'entreprise kantienne met la raison humaine face à ses contradictions, pour mieux identifier ce qui en constitue l'humanité, à savoir la liberté. Pour ce faire, la Critique de la raison pure, publiée dans sa première version en 1781, opère ce que l'on nomme une révolution copernicienne. Bonjour Jocelyn Benoît.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et pour le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à la Critique de la raison pure, j'ai le plaisir de vous accueillir pour continuer notre lecture de ce texte aussi grisant que redoutable, en partant d'une question. Qu'est-ce que cette révolution copernicienne à laquelle Kant dit procéder? La parole est à Bachelard.
La révolution opérée par Copernic dans les notions fondamentales de l'astronomie s'énonce si clairement qu'on méconnaît souvent l'immense labeur, la longue méditation qui a été nécessaire à l'établissement de ce nouveau système du monde. La conclusion, en effet, est simple et l'on répète, sans s'informer davantage, Copernic a affirmé que c'était la Terre qui tournait réellement autour du Soleil et non pas, malgré les apparences, le Soleil qui tournait autour de la Terre. En cette simple proposition, on tire tout de suite des conséquences philosophiques. Le génie de Copernic, dit-on, prouvait que la Terre n'est plus le centre du monde. Mais quand on suit l'ordre des raisons par lesquelles Copernic établit son monde, on se rend compte que ces raisons appartiennent encore à la pensée médiévale. Mais au sein de cette pensée médiévale, Copernic introduit une modification radicale, l'héliocentrisme.
Et l'héliocentrisme, Jocelyn Benoît, c'est-à-dire le fait que la Terre n'est plus le centre du monde, va avoir des conséquences décisives dans le domaine scientifique. Que signifie cette introduction de la révolution copernicienne au sein du domaine de la connaissance, par Kant?
Alors d'abord, il faut faire une remarque qui est que l'expression révolution copernicienne, évidemment, elle ne se trouve pas chez Kant. Mais Kant parle tout de même de révolution. Il n'emploie pas la révolution copernicienne, mais dans le fameux passage de la préface de la deuxième édition de la Critique de la raison pure, où il fait du geste copernicien le modèle de la critique, il le qualifie tout de même bien de révolution. Donc une révolution, en principe, c'est un bouleversement total. C'est un changement de point de vue radical. C'est pas un détail, c'est pas un simple aménagement. C'est une véritable transformation dans la façon de penser. Alors, pour Kant, il y a révolution de type copernicien en philosophie. Lorsque, quittant un point de vue qui était un point de vue qui se centrait sur la chose et qui satellisait la connaissance par rapport à la chose telle que on pourrait en disposer avant toute connaissance, va au contraire se placer dans une perspective où c'est de la connaissance qu'il faut partir. Donc c'est bien un renversement, basculement de la centralité de la chose vers la centralité de la connaissance elle-même.
Mais alors, qu'est-ce qui tient lieu du soleil, enfin lieu et place du soleil et de la Terre, puisque finalement Copernic change, montre que le soleil est au centre de l'univers et non pas la Terre. Kant va montrer que c'est le sujet connaissant et non l'objet connu qui est au centre de cet univers. Donc c'est presque l'inverse de ce que fait Copernic.
Alors vous touchez du doigt un problème classique. On peut d'ailleurs partir de la philosophie actuelle pour le poser. Dans son livre « Quantum Eiasu », dans son livre « Après la finitude », dit « La révolution copernicienne-kantienne, c'est pas une révolution copernicienne, c'est une révolution ptolémaïque, puisque au fond Kant fait tout tourner autour de nous ». Alors c'est pas une objection nouvelle, c'est une objection qui notamment a une tradition importante dans le commentarisme anglo-saxon. Chez les Allemands moins, mais dans la littérature anglophone sur la critique de la raison pure, c'est un très vieux thème. C'est un thème qui notamment avait été relancé par Russell, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un fameux texte de Russell où Russell attaque Kant en disant « Mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette révolution copernicienne qui procède à l'envers, qui en réalité fait tout tourner autour du sujet ?» Ça ressemble plus à Ptolémée qu'à Copernic.
Russell dit qu'on aurait dû parler d'une contre-révolution ptoléméenne.
Tout à fait. Et en fait, c'est pas Russell qui invente ce thème. C'est un thème qui circule depuis au moins le début du XXe siècle chez les anglophones. On trouve ça notamment chez un des grands traducteurs de la critique de la raison pure, Norman Kemp Smith, qui est l'auteur de la traduction de la critique qui a un peu fait norme pendant longtemps dans le monde anglophone. Donc c'est un très très vieux thème chez eux. Alors, il y a effectivement une énigme, puisque si on représente la révolution copernicienne comme une première blessure narcissique, pour employer le vocabulaire de Freud, dire ben voilà, on n'est plus au centre de l'univers, en réalité, nous sommes satellisés autour du Soleil, on a l'impression que la pensée critique kantienne, c'est un peu le contraire. Donc il faut regarder de plus près la métaphore, puisque évidemment on peut supposer que Kant ne fait rien au hasard, qu'il a réfléchi cette métaphore, dont il fait l'emblème même de sa façon de penser. Alors je pense qu'il y a une chose à quoi il faut être sensible dans le texte, dans ce qui a été lu, dans l'intervention de Bachelard. Bachelard dit une chose très importante, dit il faut aller au-delà des apparences. La révolution copernicienne, ça consiste à aller au-delà des apparences. Alors c'est exactement le motif qu'on retrouve chez Kant. Kant nous dit l'apparence, c'est le géocentrisme. Et la révolution effectuée par Copernic, c'est dépasser cette apparence-là. Alors, dans quelle mesure ? Bon, ça correspond exactement au geste de Copernic. Il y a plusieurs façons d'analyser la situation. Il y a une première façon qui est peut-être la plus facile, mais qui, à mon avis, est insuffisante. La première interprétation possible, c'est de dire, chez Copernic, il y a deux choses. Il y a bien sûr le fait que la Terre tourne autour du Soleil, mais il y a déjà l'idée de la rotation de la Terre sur elle-même. Alors quand on lit le texte de la préface de la critique de la raison pure, on voit que Kant nous dit, au fond, ce qui est important, c'est de mettre l'observateur en mouvement. Il ne dit pas lequel. Après tout, ça peut être le mouvement sur lui-même, ça peut être la rotation.
Oui, on ne sait pas si ce mouvement, c'est celui de tourner autour d'un astre ou si c'est de tourner sur lui-même.
Exactement.
La Terre effectuant les deux.
Au fond, peut-être que la rotation de la Terre sur elle-même suffit. Auquel cas, ce qui serait fondamental, c'est de se rendre compte que les choses telles que nous les connaissons sont profondément déterminées par le mouvement propre du sujet. Donc ça serait de percevoir cette apparence comme apparence, et pour ça, le modèle qui est celui de la rotation propre de la Terre suffit. Alors, il y a une ligne d'interprétation qui consiste à réduire, au fond, le modèle de la révolution copernicienne pour Kant au modèle de ce premier mouvement, la rotation propre de la Terre. En fait, je pense, pour ma part, que c'est insuffisant. Je pense que c'est insuffisant et je pense que lorsqu'il parle de la révolution copernicienne, il a en vue également l'héliocentrisme. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est comment ce mouvement propre qui est le nôtre devient thématisable. En fait, paradoxalement, il devient thématisable que si on ne se place pas de notre propre point de vue. Que si nous sommes capables de nous décentrer et de nous représenter depuis un autre point de vue, le fait que nous sommes en mouvement. Or, ce motif, il est explicite chez Kant. Il est explicite, notamment, dans les lignes qui suivent, la fameuse introduction de la critique de ce motif dans la révolution copernicienne, où il dit, au fond, qu'est-ce qu'a fait Copernic ? Mais Copernic s'est rendu compte que pour poser correctement la question de comment les choses nous apparaissent, on est obligé de passer sur le plan intellectuel. On est obligé de passer à une interprétation qui est une interprétation de l'entendement. On ne peut pas se contenter de prendre les choses telles qu'elles nous apparaissent de façon sensible. Il faut une rupture. C'est un thème très bachelardien. Rupture avec le sensible. Et ce point de vue qui est celui de l'entendement, il nous projette au-delà de la façon dont les choses nous paraissent immédiatement. D'une certaine façon, ça veut dire que à ce niveau-là, on se place du point de vue du soleil. Et puis, il y a un texte tardif de Kant qui confirme cette interprétation. C'est la réapparition de ce motif copernicien dans ce texte très tardif. C'est un des deux derniers textes que Kant ait publié, qui s'appelle « Le conflit des facultés ». Dans « Le conflit des facultés », 1798, Il y a un passage où Kant réactive le modèle de Copernic, et c'est un contexte très intéressant, puisque en fait c'est un contexte dans lequel épistémologiquement il met Copernic en continuité avec Newton. Il dit Newton ne serait pas été possible sans Copernic. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est Newton ? Ben, c'est la gravitation universelle, donc c'est la rupture définitive avec le modèle aristotélicien de la chute des graves, de l'interprétation des corps pesants comme référé à un ordre naturel dans lequel il y a un haut et un bas, et le bas, ben, c'est cette Terre sur laquelle nous sommes. Donc, faire exploser ce modèle-là pour passer au concept d'une gravitation universelle, ça suppose un décentrement. Ça suppose de ne pas rester collé à la surface de notre Terre. Et dans ce texte-là, il dit très clairement, ça veut dire se placer du point de vue du Soleil. Du point de vue où c'est le Soleil qui est au centre.
Mais finalement, c'est assez logique. Pour pouvoir voir que l'homme est au centre de la connaissance, il faut d'abord se décentrer.
Exactement.
Tant que l'homme est au centre, il ne sait pas qu'il est au centre.
Exactement, c'est exactement le point. Tant que nous sommes finalement adhérents à notre propre point de vue, nous ne le thématisons pas comme tel.
Alors écoutons Kant, lui, le thématiser comme tel au début de la critique de la raison pure. C'est un extrait de la préface à la seconde édition, dans lequel il définit ce qu'est cette révolution dite copernicienne, qui correspond à un changement de paradigme, dit-on, de la connaissance. Il ne faut pas la régler sur les objets, mais c'est les objets eux-mêmes qu'il faut régler sur la connaissance. Écoutez.
À quoi tient qu'en métaphysique, nulle voie sûre de la science n'ait pu encore être découverte? Est-ce éventuellement impossible? D'où vient donc que la nature a affligé notre raison de l'inlassable aspiration à en chercher la trace, comme s'il s'agissait là d'une de ses affaires les plus importantes? Bien plus, combien peu avons-nous de motifs de faire confiance à notre raison si, dans un des objets les plus importants de notre curiosité, non seulement elle nous abandonne, mais encore elle nous leurre par des mirages et en fin de compte nous abuse. Ou alors, si la voie sûre d'une science a simplement jusqu'ici été manquée, quels indices pouvons-nous utiliser pour espérer, en nous livrant à des recherches renouvelées, que nous serons plus heureux que ne l'ont été ceux qui nous ont précédés? Je ne pouvais qu'estimer les exemples de la mathématique et de la physique qui sont devenus ce qu'elles sont désormais à la faveur d'une révolution accomplie d'un seul coup, assez remarquable pour me mettre à réfléchir à l'élément essentiel de la transformation intervenue à leur si grand avantage dans la manière de penser, et pour les imiter à cet égard, du moins à titre d'essai, autant que le permet leur analogie comme connaissance rationnelle avec la métaphysique. Jusqu'ici, on admettait que toute notre connaissance devait nécessairement se régler d'après les objets. Mais toutes les tentatives pour arrêter sur eux, a priori, par concept, quelque chose par quoi notre connaissance eût été élargie, ne parvenaient à rien en partant de ce présupposé. Que l'on fasse donc une fois l'essai de voir si nous ne réussirions pas mieux dans les problèmes de métaphysique, dès lors que nous admettrions que les objets doivent se régler d'après notre connaissance. Il en est ici, comme avec les premières idées de Copernic, lequel, comme il ne se sortait pas bien de l'explication des mouvements célestes en admettant que toute l'armée des astres tournait autour du spectateur, tenta de voir s'il ne réussirait pas mieux en faisant tourner le spectateur et en laissant au contraire les astres immobiles.
Il faut prendre le terme de révolution au sérieux, Jocelyn Benoît, c'est-à-dire dans ce qu'il comporte et dans ce qu'il évoque en termes d'urgence. Cette urgence est réelle, nous dit Kant, parce que si nous ne définissons pas quelles sont les modalités de la connaissance, c'est-à-dire si nous n'indexons pas la connaissance sur le sujet connaissant et pas sur l'objet connu, eh bien nous risquons de tomber dans une forme de scepticisme, qui est une forme de mélancolie qui nous conduirait à tourner le dos à toute forme de connaissance et à ne plus vouloir rien connaître. C'est ça qu'il y a d'assez troublant dès le texte de cette préface, c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas simplement ici dans une discussion d'épistémologie, comment connaître les choses, mais il s'agit de sauver le savoir humain en tant que tel.
Oui, vous savez, il s'agit même de sauver, pourrait-on dire, la raison humaine. La raison humaine au sens où la raison, c'est le savoir, mais pas seulement. C'est aussi, et d'abord, l'affirmation de la liberté, l'affirmation d'une dimension dans notre existence de transcendance par rapport aux phénomènes. Pour connaître, nous n'avons que les phénomènes, mais nous ne sommes pas seulement des sujets connaissants. Nous sommes aussi des sujets qui ont une vocation qu'il appellerait cosmopolitique, c'est-à-dire que le monde n'est pas juste la sphère de ce que nous connaissons, mais c'est aussi le lieu de notre action et le lieu de notre statut en tant qu'être responsable, en tant qu'être libre.
Vous avez prononcé le terme, nous ne pouvons connaître que des phénomènes. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que du monde, nous ne connaissons que la partie connaissable que Kant appelle les phénomènes, ou est-ce que ça veut dire que le monde est intégralement constitué de phénomènes et que finalement nous n'avons jamais accès à autre chose qu'à ce que nous voyons dans ces phénomènes ?
Alors il y a dans la critique de la raison pure une déconstruction du concept métaphysique de monde. Kant hérite cette structure de la métaphysique classique, la métaphysique qu'on dit souvent, la métaphysique scolaire allemande, la Schulmétaphysique, du XVIIe, XVIIIe siècle. Et dans cette structure de la métaphysique classique, il y a la partie générale, ce qu'on appelle métaphysique générale, c'est l'ontologie, la doctrine de l'étant, qui définit ce que c'est qu'être. Et puis, de l'autre côté, on a la métaphysique spéciale, avec ses trois branches, avec Dieu, le moi, le monde. Et donc, la cosmologie rationnelle, la doctrine a priori du monde, c'est une des branches de la métaphysique. La doctrine de la totalité comme totalité, c'est une des branches de la métaphysique. Dans la critique de la raison pure, on trouve une critique de notre prétention à construire une connaissance a priori du monde en tant que monde. Notre connaissance n'a pas prise sur la totalité en tant que totalité. Cette totalité se voit réduite au statut de ce que Kant appelle une idée régulatrice, donc un principe organisateur du savoir, quelque chose qui organise asymptotiquement notre savoir. Notre savoir tend à l'infini vers une forme de totalisation, mais totalisation qu'il ne peut jamais effectuer. Il n'y a jamais un point de vue synthétique global où on pourrait se donner le monde en tant que monde. Donc le concept de monde devient une idée, un principe directeur. Ça n'est plus, le monde n'est pas un objet. Le monde, c'est l'horizon de tous les objets. L'horizon jamais atteint, mais le monde lui-même n'est pas un objet. Donc effectivement, il n'y a pas de connaissance du monde en tant que monde. En revanche, tout ce que nous le connaissons en le plaçant sous l'horizon de cette idée de monde. Connaître, c'est assigner une place dans ce monde que nous visons à l'infini. C'est localiser dans ce monde que lui, en revanche, nous n'avons pas comme monde.
Ça, c'est pour le monde. Mais la question, la notion de phénomène elle-même, vous n'avez pas répondu à cette partie-là de la question. Pourquoi distingue-t-il les phénomènes comme seule chose connaissable par l'entendement humain ?
Alors ça, c'est évidemment la couche fondamentale de la construction critique. C'est ce qui se joue dans l'esthétique transcendantale. C'est l'idée que nous n'avons connaissance de l'objet qu'en tant que l'objet peut nous être donné, et qu'il ne peut nous être donné que suivant les structures qui sont celles de notre sensibilité finie. Ces deux grandes structures que sont l'espace et le temps. Donc connaître, c'est connaître quelque chose en tant que ça peut apparaître dans l'espace et dans le temps. Et c'est ce qu'il faut entendre dans la notion de phénomène. Phénomène, feinestai, apparaître. Donc il y a des structures de l'apparaître comme tel. L'idée fondamentale de Kant étant que ce qui est connu doit être connu en tant que ça peut être inscrit dans l'apparaître, que toute prétention à connaître quelque chose, indépendamment de son inscription possible dans l'apparaître, nous conduit en réalité à une illusion de connaissance et non pas à une connaissance réelle.
C'est-à-dire que si on suit la logique ancienne qui consiste à opérer cette révolution et donc à placer au sein du sujet humain le fondement de la connaissance et non plus au sein des objets, alors logiquement s'ensuit la nécessité pour Kant de définir ce mode d'appréhension, ce mode de connaissance par l'homme des objets qui lui sont donnés. Or, il définit, et ça c'est dans l'esthétique transcendantale, de manière très claire, la façon qu'a la connaissance d'être constituée par le sujet. Il lui faut deux choses, il lui faut l'entendement d'un côté, qui est muni de concepts, et de l'autre, la sensibilité. Et c'est cette forme d'appréhension de la sensibilité par l'intuition pure, ces formes, a priori, dit-il, que sont l'espace et le temps, qui vont permettre, disons, d'avoir un accès aux données, et ainsi de produire la connaissance quand l'entendement va rencontrer la sensibilité et produire donc ce qu'on appelle, nous, la connaissance.
Tout à fait. À partir du moment où la connaissance se voit fondamentalement rapportée au sujet, et connaissance effectuée par un sujet, et doit être pensée depuis l'être de ce sujet, les structures propres de ce sujet deviennent absolument déterminantes. Elles définissent le format même de la connaissance. Alors dans ces structures, on peut distinguer des structures de deux types. Il y a les structures intellectuelles. Il y a ce que Kant va appeler les catégories. Alors les catégories, dans la systématique de la critique, elles sont déduites des différentes fonctions du jugement, des différents types de jugements qui peuvent être effectués par un entendement. C'est une déduction. Donc si c'est une déduction, ça veut dire que, en toute rigueur, en déduction au sens juridique du terme, hein, c'est le modèle kantien et un modèle juridique, c'est-à-dire c'est l'établissement du fait qu'en droit, c'est ces concepts-là que doit utiliser un entendement en tant qu'il juge. Ça veut dire que n'importe quel être qui juge aurait les mêmes catégories. En revanche, si on remonte au premier étage de la construction critique, si on s'intéresse à ce que Kant appelle esthétique transcendantale, là, ça fonctionne pas de la même façon. Fonctionne pas de la même façon puisque les structures de la sensibilité, les structures a priori de la sensibilité, que sont pour nous l'espace et le temps, sont pas objets de déduction, elles sont objets d'exposition. Alors ça, c'est évidemment un écart terminologique qui n'est certainement pas un détail. Ça veut dire que exposition, ça veut dire bien sûr présentation dans l'intuition. Donc l'idée, à l'arrière-plan, c'est que ces structures de la sensibilité, elles-mêmes, à un certain niveau, peuvent faire objet d'intuition. L'espace et le temps sont des structures dont il peut y avoir une certaine intuition. Mais ça veut dire aussi que ce qui s'expose, ça ne se déduit pas. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de facticité là-dedans.
Un donné, c'est
ça. En clair, nous avons les structures de la sensibilité que nous avons. C'est un fait. On pourrait parler de fait métaphysique.
C'est pas le résultat d'un raisonnement.
Mais ce qui veut dire en clair qu'il pourrait très bien y avoir des êtres qui aient les mêmes catégories que nous, mais qui n'aient pas les mêmes structures de la sensibilité. Il y a une dimension de contingence là-dedans. Autant les structures de l'entendement sont absolument nécessaires une fois qu'on a l'activité du jugement, si des êtres jugent au sens où nous le faisons, ils ont forcément les mêmes catégories, autant les structures de la sensibilité comportent forcément, résiduellement, une dimension de fait. Nous avons, de façon contingente, ces deux structures de la sensibilité que sont l'espace et le temps. Il pourrait métaphysiquement en être autrement.
Il faut éviter que l'on se mette en tête d'expliquer l'idéalité affirmée de l'espace par des exemples largement insuffisants. Puisque par exemple les couleurs, le goût, etc. sont considérés à juste titre non comme des propriétés des choses, mais simplement comme des modifications de notre subjectivité qui peuvent même être différentes chez les individus différents. Car dans ce cas, ce qui n'est originairement en soi-même que phénomène, par exemple une rose, acquiert, entendu au sens empirique, la valeur d'une chose en soi qui pourtant peut apparaître à chaque œil d'une autre manière du point de vue de la couleur.
J'ai fait trois fois le tour des choses. Soudain, je n'y comprends plus rien. Je croyais tout savoir des roses avant de découvrir ton teint. Si de ma chambre à la grande ourse, j'ai fait le voyage trois fois. Ici s'arrête ma course, mon savoir s'arrête à toi. Mon savoir s'arrête à toi. Je croyais tout savoir des sources avant de découvrir ta voix.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est Henri Salvador qui fait le tour des choses en soi, puisque c'est le sujet de notre émission aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième temps de notre série consacrée à la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Et c'est le philosophe Jocelyn Benoît qui enseigne la philosophie contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui vient nous en parler aujourd'hui. Jocelyn Benoît, qui est l'auteur de Logique du phénomène, paru chez Hermann, Le bruit du sensible aux éditions du Cerf, ainsi que Les éléments de philosophie réaliste, paru chez Vrin en 2011.
J'ai fait trois fois le tour des choses. J'ai suivi l'oiseau, le marin. Vois quelle métamorphose, moi qui me croyais malin, moi qui me croyais malin, dès que sous mes yeux tu te poses, je comprends que je ne sais rien.
Ah, cher voisin, je voulais vous voir.
Professeur.
Mais vous alliez sortir.
Cher et grand philosophe, l'honneur de votre visite sera l'excuse à l'avance recevable que je donnerai de mon retard.
Non, non, je reviendrai.
Alors faites-moi la grâce.
Voici, monsieur Loiseleur, vous voyez votre pigeonnier.
À proprement parler, je vois un pigeonnier, mais votre simple et profonde remarque m'invite à cette réflexion immédiate, puis-je d'un seul regard, de cette seule sensation, embrasser et cette bâtisse et le sentiment de propriété? Que dis-je de ma propriété?
En effet, mais si vous permettez, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, j'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier. Cependant, depuis quelque temps, vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, monsieur Loiseleur, comprenez-vous? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre?
Abattre un arbre, professeur?
Abattre un homme, monsieur Loiseleur?
Et oui, si on essaye de définir plus précisément ce qu'on entend par phénomène Jocelyn Benoît, parce que c'est vraiment le terme central pour la discussion qui nous occupe aujourd'hui, il faut, pour définir ce qu'est un phénomène, miser sur une forme de stabilité de la perception. C'est-à-dire que, de même que Kant, qui veut voir le pigeonnier devant lui, demande à son voisin d'abattre l'arbre au motif que celui-ci bouge et que ça le perturbe, de même, Kant, dans son travail, va chercher un donné suffisamment stable pour pouvoir parler de phénomènes, c'est-à-dire d'objets de connaissance. Or, le cas de la rose qu'il prend, par exemple, est une bonne façon d'illustrer ce que nous sommes en train de dire. La rose est tributaire de ce qu'on appelait avant Kant, en tout cas des qualités secondes, des attributs secondes, sa couleur, son odeur, sa forme. Si bien que, avec des objets aussi plastiques, changeants, contingents que la rose, on ne peut pas, à proprement parler, établir ce qu'on appelle une connaissance qui se doit d'être objective et établie de manière stable dans le donné. Alors comment s'en sort-on, Jocelyn Benoît?
Oui, vous avez cité un texte qui est un texte à la fois important et puis difficile, de l'esthétique transcendantale, puisque c'est un texte effectivement où Kant fait allusion à la problématique classique des qualités secondes, distinction qualité première, qualité seconde, qui vient de Locke. Et en réalité, il nous dit quelque chose d'assez subtil, puisque il nous dit à la fois que c'est pas le problème, et en même temps il nous dit que on a un certain sens, ça peut servir de modèle, mais si on déplace le terrain d'application de ce dispositif. Puisque, en réalité, bon, il y a cette distinction classique qui nous vient de Locke, qui est la distinction entre ce qui serait censé nous être présent tel que c'est dans l'objet, et là ça renverrait aux propriétés de la res extensa, ça renverrait à l'étendue, le mouvement, un certain nombre de propriétés figurales, et puis il y a ce qu'on appelle les qualités secondes, les couleurs, les odeurs, etc., qui sont des qualités qui seraient censées représenter certes quelque chose de l'objet, mais pas tel que c'est dans l'objet lui-même, puisque l'idée c'est que par exemple, à la base de la couleur, ben, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine configuration de particules. Il faudrait traduire la dimension qualitative de l'expérience dans un modèle qui serait un modèle corpusculaire et mécanique. Et là, on aboutirait à la réalité de l'objet. Mais c'est pas comme ça que les choses nous sont présentes dans la perception. Mmh. Ce qui en réalité relève d'une certaine configuration de corpuscule va nous être présent sur la modalité, par exemple, d'un certain parfum ou bien d'une certaine couleur. Donc il y aurait des aspects de la chose perçue qui renverraient à la constitution de la chose perçue même, et d'autres aspects qui seraient codés, qui évidemment sont un signe qu'il y a quelque chose dans la chose elle-même, mais qui nous représente pas ce quelque chose tel qu'il est dans la chose même. Alors Kant connaît évidemment ce modèle, il le discute. Il faut d'ailleurs rappeler que Locke est un philosophe très important pour Kant. Il y a un passage d'un cours de logique, dans la logique Blomberg, où Kant a cette formule: Locke, le plus grand des philosophes critiques. C'est évidemment un hommage important de la part du philosophe qui place sa pensée sous le signe de la critique. Locke, donc, Kant connaît ce modèle. Mais ce qu'il nous dit, c'est en réalité, ça n'est pas le point. En réalité, les qualités premières, de son point de vue à lui, sont tout aussi phénoménales que les qualités secondes. Donc plutôt que d'essayer de trier dans les qualités en distinguant certaines qui n'auraient pas de portée objective, d'autres qui auraient une portée objective, il faut plutôt réfléchir sur leur mise en ordre global, et il faut réfléchir sur les conditions sous lesquelles les qualités en général peuvent prétendre à l'objectivité. Mmh. Or, pour Kant, le terrain sur lequel peuvent prétendre à l'objectivité, ça n'est pas celui d'un supposé dépassement où on abattrait l'arbre, pour reprendre la métaphore du texte qui a été lu, mais c'est plutôt l'idée
du film de Philippe Collin, hein, Les derniers jours d'Emmanuel Kant.
L'idée d'une certaine mise en ordre des phénomènes. Il faut placer les phénomènes sous une règle. Et donc l'idée, c'est que c'est dans, sur le terrain même des phénomènes, que quelque chose comme de l'objectivité peut être construit, et que le partage entre une dimension objective et une dimension subjective de l'expérience peut avoir un sens. Il ne s'agit pas de crever l'écran des phénomènes, il ne s'agit pas de placer l'objectivité dans un dépassement des phénomènes, il s'agit plutôt de réinstaller la problématique de l'objectivité sur le terrain même des phénomènes, à travers cette problématique de la mise en ordre et de la règle.
Mais ce faisant, il redouble la difficulté, puisque comment s'assurer que ce que nous connaissons du monde, c'est-à-dire ce que nous connaissons des phénomènes, renvoie à une réalité indépendante de la perception subjective que nous en avons. Puisqu'il n'y a pas de Dieu qui viendrait établir de manière harmonieuse la rencontre entre le sujet et l'objet, puisque nous dépendons dans notre connaissance de la perception et de l'intuition que nous faisons des choses, comment s'assurer que cette connaissance soit jamais objective ?
Alors, je pense qu'il faut distinguer deux concepts. Il y a le concept d'objectivité et le concept de réalité. Et ça, c'est sans doute un point important pour comprendre l'action de phénomène chez Kant. Il faut remarquer que Kant a un emploi très précis, respectivement, des mots « chose », « ding » et « objet », « Gegenstand ». Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a connaissance de l'objet. En un certain sens, c'est trivial, puisque qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Qu'est-ce qui définit l'objet en tant qu'objet ? Si ce n'est le fait qu'on se le donne et on le construit comme objet. L'objet, si on peut dire, c'est par vocation l'objet de connaissance. La problématique de l'objet ne se pose que sur le terrain de la connaissance même. En revanche, quand il parle de la chose en soi, il parle de quelque chose qui est présenté comme n'étant pas objet de connaissance.
Alors, on n'a pas encore dit ce que c'était que la chose en soi. Parce que c'est un concept qui, à la base, est négatif. C'est précisément le phénomène peut être l'objet de la connaissance, mais cette connaissance n'épuise pas le monde, si tant est qu'on puisse encore se servir du concept de monde, on n'épuise pas même la réalité, il y a un reste inaccessible à la connaissance qui est ce que Kant appelle la chose en soi et qu'on ne peut jamais connaître.
Tout à fait, et qui est censé donc être au-delà du phénomène. C'est-à-dire que d'un côté, l'objet est une construction sur le terrain des phénomènes, avec une distinction entre ce qui obéit à une règle et puis ce qui serait anomique, ce qui apparaîtrait finalement comme ne pouvant pas être placé sous une régularité. Et puis, de l'autre côté, on a la chose en soi qui, elle, est censée se tenir au-delà du phénomène. Alors, ce concept-là, évidemment, est un concept extrêmement problématique et en même temps fondamental, puisqu'il est essentiel pour comprendre la notion de phénomène. Les phénomènes ne sont phénomènes qu'en tant qu'il y a quelque chose qui est censé les dépasser et dont il serait elle apparaître. Kant le dit dans la préface de la seconde édition de la Critique, il dit « Il est nécessaire, pour que la notion de phénomène ait un sens, de poser quelque chose au-delà du phénomène. Sinon, dit-il, on aboutirait à cette idée absurde d'un apparaître sans qu'il soit apparaître de quoi que ce soit. Si apparaître, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. » Ce concept-là qu'il introduit pour remplir cette fonction, le concept de chose en soi, est un concept extrêmement opaque, extrêmement énigmatique. Alors, il y a une forme d'évidence là-dedans, puisque il est censé jouer le rôle, justement, du point opaque, de ce à quoi on n'a pas accès, de ce qu'on n'atteint pas. C'est un concept qui a suscité une très grande résistance dans l'histoire de la réception du kantisme. Dès les premiers lecteurs, les premiers lecteurs critiques de Kant, des gens comme Jacobi, par exemple, ou bien Schulze, des lecteurs justement sceptiques, notamment ayant une problématique de type sceptique, vont pointer ce qu'ils pensent être l'incohérence de ce concept dans la construction kantienne. Puisque on a un auteur qui nous dit...
Le concept de chose en soi.
Le concept de chose en soi, puisque on a un auteur qui nous dit, nous n'avons que les objets sur le terrain des phénomènes, et en même temps, il utilise, pour dire ça, un concept qui est censé renvoyer à quelque chose qui transcende l'espace des phénomènes. Il utilise un concept qui ne renvoie pas à un objet, qui renvoie à cette chose insondable, inscrutable, énigmatique. Alors évidemment, beaucoup d'auteurs ont pointé là une tension, un problème. Il y a des stratégies dans l'histoire de l'interprétation de Kant pour essayer de traiter ce problème. Il y a notamment une stratégie qui est redevenue assez populaire dans les interprétations au XXe siècle, parce que finalement nous sommes mal à l'aise avec le concept de chose en soi tel que nous l'héritons de la critique. Il y a la stratégie qu'on appelle théorie du double aspect. Il y a des auteurs, c'est le cas notamment d'un interprète américain qui est assez important dans le commentarisme kantien actuel, Henry Allison. C'est le cas aussi de Gerold Prowse en Allemagne, qui sont deux grands interprètes actuels de Kant. Ils vont dire, non, mais c'est juste c'est pas réellement la distinction de deux choses. C'est la distinction de deux aspects. Faut distinguer la chose en tant qu'on la considère comme apparaissant, donc en tant que phénomène, ou bien la chose en tant qu'on la considère indépendamment du fait qu'elle apparaît. Et dans ce cas-là, c'est la chose en soi. Ils vont même jusqu'à dire, il faudrait paraphraser, à chaque fois que Kant emploie l'expression chose en soi, il faudrait plutôt paraphraser par la chose telle qu'on la considère comme en soi. considéré comme en soi.
Oui, puisqu'en toute rigueur, on ne peut pas avoir accès à cette chose en soi.
Alors, c'est évidemment commode, puisque ça permet de domestiquer, en quelque sorte, cette extériorité radicale de la chose en soi. Malheureusement, dans les textes, ça paraît difficile à soutenir. Ça paraît difficile à soutenir. Lorsque Kant pointe la chose en soi, il semble bien qu'il pointe quelque chose qui se définit précisément comme étant au-delà de notre façon de le considérer. Quelque chose qui échappe à une définition sur le terrain de notre point de vue, notre considération.
Mais alors, pour le dire clairement, est-ce qu'on peut concevoir la distinction entre phénomène et noumène, qui est le nom conceptuel de chose en soi, hein, Kant emploie le terme de noumène, comme étant identique, de par sa structure, à l'opposition platonicienne entre le monde sensible et le monde intelligible, entre les idées ou les formes, selon le vocable platonicien, et le monde sensible foisonnant, toujours lieu d'illusion et de le domaine de l'apparaître. Est-ce que l'analogie se tient ?
Alors, je vais revenir sur la comparaison avec Platon, parce que je pense qu'elle est effectivement la clé des concepts de nous-mêmes.
Parce qu'il n'y a pas d'arrière-monde chez Kant, c'est ça qui est étrange.
En tout cas, le concept de phénomène, il vient de l'histoire du platonisme. Ouais. Donc, il n'est pas un hasard que dans la catégorie de la raison pure, à un certain niveau, je vais revenir tout de suite, il y a un débat avec le platonisme à propos des concepts de phénomène et de nous-mêmes. Mais je voudrais d'abord revenir sur un point qui est souvent tenu pour acquis, qui est l'identité du nous-mêmes, la chose en soi. Alors, il y a une lecture qui est une lecture extrêmement importante dans l'histoire du kantisme, c'est les néo-kantiens, notamment Hermann Cohen. C'est une lecture qui va, au fond, tout donner au noumène, en disant la thèse de la chose en soi dans son caractère métaphysique, cette thèse d'un grand dehors, d'une chose inscrutable, inaccessible, qu'il y a au début de l'esthétique transcendantale, c'est un point de départ, c'est quelque chose dont il faut partir, mais en quelque sorte, ça va s'effacer au cours de la construction, puisque avec la notion de noumène, telle qu'elle est définie à la fin de l'analytique transcendantale, c'est le dernier chapitre de l'analytique des principes, ben on a la chose en soi, mais redéfinie en tant que le pensable, en tant que chose pensée. Noumène, c'est ça que ça veut dire étymologiquement, ça veut dire ce qui est pensé, ce qui est l'objet d'une intellection.
C'est plus simplement un concept limitatif.
Alors, ils disent c'est un concept limitatif, mais la vérité de la chose en soi, elle est dans ce concept limitatif. Donc ils ont l'idée que le noumène, au fond, en quelque sorte, fait disparaître le concept de chose en soi. Il lui donne un statut interne à la construction kantienne, et donc il nous débarrasse de l'aporie, de cette espèce d'extériorité sauvage, insondable, qui était posée au départ de la critique. Je pense que cette lecture très populaire, hein, et qui est très importante dans la lecture de Kant jusqu'à aujourd'hui, n'est pas défendable. Et de ce point de vue-là, c'était un point sur lequel insistait beaucoup Gérard Lebrun, que j'ai eu la chance de connaître et qui j'ai eu la chance de travailler sur Kant. Gérard Lebrun était toujours indigné par toute interprétation qui essayait en quelque sorte d'écraser les différents moments de la critique les uns sur les autres. Et Gérard Lebrun disait toujours, attention, la notion de chose en soi ne sert pas exactement à la même chose que la notion de noumène. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le noumène, c'est un objet. Le chapitre où Kant parle des noumènes et des phénomènes, le dernier chapitre de l'analytique des principes, c'est du principe de la distinction en général des objets entre noumènes et phénomènes. Donc on est sur le terrain de l'objet. La chose en soi, telle qu'elle est dans l'esthétique, dans sa radicalité, c'est ce qui n'est même pas un objet. Ce qui est au-delà, ce qui est avant et au-delà de notre puissance d'objectivation. Donc il y a bien comme une sorte de thèse métaphysique. Alors maintenant, revenons aux noumènes. Le noumène, effectivement, dans la, bien sûr que c'est un terme qui sonne platonisant. Le chapitre sur la distinction des objets en général entre phénomène et noumène, on a l'impression de se retrouver chez Platon. Et d'ailleurs, il y a des textes qui produisent encore plus cette impression. On peut penser au fondement de la métaphysique des mœurs. Mm-hmm. Dans le fondement de la métaphysique des mœurs, il y a un questionnement sur deux mondes, monde sensible, monde intelligible. Alors évidemment, ce qu'il nous dit dans le fondement de la métaphysique des mœurs, en cohérence avec le chapitre sur les noumènes et les phénomènes dans la critique, c'est que le monde intelligible, on ne peut pas lui accorder une consistance positive. On doit se représenter comme membre d'un monde intelligible, au sens où il y a un règne des libertés. En tant que sujet libre, nous constituons un monde intelligible, mais ça n'est pas quelque chose dont nous puissions avoir une connaissance positive, en tout cas une connaissance ontologique. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui serait, on ne peut pas en faire une description. En revanche, nous devons, c'est un devoir, nous représenter comme ayant ce statut-là. Alors, cette idée-là, elle est tout à fait cohérente avec ce qu'il dit sur le noumène et le phénomène dans le chapitre correspondant de la critique, donc de la distinction des objets en général entre noumène et phénomène, où il nous dit, les phénomènes, ben, c'est les objets qui apparaissent de façon sensible, en tant qu'ils apparaissent de façon sensible. L'idée du noumène, c'est l'idée d'un objet purement pensé. Et alors là, il nous dit, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité platonisante. La possibilité platonisante, c'est de dire ces objets purement pensés peuvent eux-mêmes être l'objet d'une intuition. C'est une intuition intellectuelle, une intuition non sensible. Donc, on peut se les donner, ou en tout cas, on peut se les représenter comme pouvant être donnés. Et il nous dit, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, puisque, en réalité, être pensant fini que nous sommes, être sensible et marqué par une certaine constitution de notre sensibilité, une telle intuition, pour nous, ne peut être qu'une représentation régulatrice, ne peut être qu'une certaine idée, mais ça n'est pas quelque chose pourquoi nous ayons un sens positif. Nous ne l'avons pas et nous ne sommes pas capables de nous la représenter. Quand bien même serait une chose possible, on peut même pas se représenter ce que ça pourrait signifier. La conséquence, dit-il, c'est que les noumènes n'ont de valeur que limitative, négative et non pas positive. On peut pas déployer en pensée l'idée d'un monde de choses intelligibles d'une façon qui prendrait une valeur de connaissance, qui nous permettrait de se représenter ce monde comme objet d'une connaissance possible. Donc, les noumènes ont une fonction essentiellement de délimitation. Ils servent à quoi ? Ils servent à nous reconduire au phénomène. Ils servent à nous représenter que tout ce que nous avons et que nous pouvons connaître, ce sont les objets sensibles, les objets donnables dans la sensibilité.
Ce qui n'empêche pas que nous passions notre temps à chercher un accès à cette chose en soi. Écoutez.
C'est sûrement là. Nom d'un chien.
Quelle chose extraordinaire.
Laissez-moi prendre une photo avant de faire des empreintes partout.
L'appareil GGR est complètement fou.
Quelque chose a fait fondre la surface et ensuite il s'est reformé de la glace transparente.
L'ensemble a la forme d'une bouteille. Je suppose que l'avion a percuté le sol à l'endroit qui représente le goulot de la bouteille.
Qu'est-ce qui a pu faire fondre toute cette glace?
Descendons voir, Barnes.
Dolores, pouvez-vous dire quel genre de métal c'est?
J'ai besoin d'un outil.
Barnes, apportez-nous une lime!
C'est un métal bizarre. Nous allons essayer d'en préciser la nature exacte. Nous pourrions nous écarter les uns des autres pour en déterminer la forme et les dimensions.
D'accord.
Dispersez-vous, nous allons essayer de déterminer la forme de cet objet.
Nom d'un chien.
Eh, c'est presque rond.
Exact. C'est rond.
On en a enfin trouvé une.
C'est une soucoupe volante, aucun doute.
Capitaine, je ne pense pas que nous réussirons à couper cette glace avec une hache.
Oui, je suis tout à fait de votre avis. Nous allons la faire fondre avec une bombe thermique.
Excellente idée.
Où est-ce qu'on met le détonateur?
Par là.
Ça va dégager la soucoupe en moins de 30 secondes.
Oh! Dans quelques minutes, nous aurons découvert les secrets de l'univers.
Ça brûle sous la glace.
Qu'est-ce qui se passe donc?
Couchez-vous, tout le monde!
Il ne reste que quelques débris.
Alors, entendu métaphoriquement, cet extrait de La Chose d'un autre monde, le film de Christian Nibier de Howard Hawks, qui date de 51, qui donnera lieu à The Thing de Carpenter, reprend presque point après point la démarche kantienne, à savoir d'essayer de briser la glace d'une forme d'apparence pour atteindre à cette chose en soi qui, en fait, n'est jamais vraiment atteignable. Et de fait, Jocelyn Benoît, il faut qu'on termine avec cette idée-là, il est nécessaire, dans la logique ancienne, que la chose en soi demeure et qu'elle soit inaccessible à notre connaissance. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, ce qui est très beau dans cet extrait, c'est que c'est la figure du grand dehors, mais le grand dehors cauchemardesque, le grand dehors inquiétant. Et en même temps, il y a un geste très ancien, puisqu'il y a le moment où on dit on va essayer de déterminer la forme de cet objet. On essaie de tomber sur ses pieds. On essaie de réduire la chose à l'objet, mais effectivement, la chose dépasse toujours l'objet. On n'arrive jamais à récupérer entièrement ce à quoi on est confronté dans la figure de l'objectivité. Alors, je pense que la chose en soi, effectivement, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça. La métaphysique, l'aspiration au contact avec l'être même au-delà des cadres limités de l'objectivité dans lequel nous essayons de le capturer, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature même de l'homme. C'est ce que Kant donc appelle le penchant, naturellement, métaphysique de l'être humain. Et je pense que ça a deux significations. D'une part, il faut évidemment tenir compte de la dynamique de la connaissance, le désir de connaître. Pourquoi est-ce que nous voulons aller toujours plus loin? Pourquoi ne pas nous contenter des formes d'objectivité acquises? Le fait même que l'objectivité soit une conquête et qu'il y a un mouvement indique bien qu'il y a une sorte d'attraction, attraction vers une forme de dépassement. Aller toujours plus loin, ne jamais se contenter de l'objectivité acquise. Ensuite, évidemment, il y a la dimension morale de l'existence.
Mais voilà, c'est quand même ça.
Comme dit, évidemment, la fameuse formule, limiter le savoir pour laisser une place à la croyance. Alors évidemment, entendons-nous, pour Kant, une croyance rationnelle,
mais la raison
n'est pas simplement une raison théorique, c'est aussi d'abord une raison pratique, c'est aussi quelque chose qui a trait à ce que l'idéalisme allemand appelait notre destination, pourquoi nous sommes ici-bas. Alors, Kant a donné lieu évidemment à des interprétations qui l'ont radicalisé. Et il y a évidemment la lecture fichtéenne de Kant, agir, agir, c'est pourquoi nous sommes ici-bas. Mais c'est une façon de pousser jusqu'au bout ce thème de l'irréductibilité, du caractère infini, de l'exigence infinie de notre engagement pratique dans l'existence. Alors le thème de la chose en soi chez Kant, il a aussi cette fonction-là, c'est de ménager ce point, cette irréductibilité de ce qu'on pourrait appeler l'infinité pratique, le fait que le devoir n'a pas de limite, donc le devoir dépasse toujours aussi la finitude des cadres que nous imposons forcément à l'objet quand nous le connaissons.
C'est-à-dire qu'en limitant la connaissance humaine au phénomène, Kant va montrer qu'il va dégager un espace possible non seulement pour la croyance, mais pour l'agir, c'est-à-dire une autre forme de causalité que la causalité scientifique. Et tout le système kantien, en tout cas les trois critiques, la critique de la raison pure dont nous parlons cette semaine, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger, sont ensemble construites, tiennent autour d'une idée, c'est le cas de le dire, qui est celle de la liberté, qui n'est pas simplement une idée justement, mais qui est ce qui définit l'homme et qui est toujours inaccessible à sa connaissance. Nous savons que la liberté est, nous pouvons la penser, mais nous ne pouvons pas la connaître ni la savoir. Et c'est pour ça que le concept limitatif de chose en soi, ou de nous-mêmes, selon comment on choisit de l'appeler, est nécessaire. C'est parce que c'est la condition pour pouvoir penser l'homme, y compris dans son aspect comme étant le lieu d'une liberté qui échappe à la connaissance.
Ben oui, en fait, on pourrait dire qu'en limitant ce qu'il appelle connaissance théorique au phénomène, Kant, paradoxalement, nous a permis de nous placer, nous, en un certain sens, hors phénomène. C'est ça l'envers du phénomène. C'est l'envers du phénomène, c'est la liberté, ce qui ne se phénoménalise pas, mais évidemment constitue en quelque sorte l'au-delà du phénomène.
Cette liberté que ne connaîtra jamais le soleil, mais qui a la chance de pouvoir continuer à tourner autour de nous, comme le chante Aretha Franklin.
Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. While that lucky old son's got nothing to do but roll around heaven all day. Now I've got to work for my family and toil for my kids, sweating till I'm wrinkled and gray. While that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day.
That lucky old son, chante Aretha Franklin, qui ne tourne pas autour de nous, comme j'ai dit, mais autour du paradis, just rolls around heaven all day. C'est bien la différence entre lui et nous, encore une. Un grand merci à vous, Jocelyn Benoît, d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui et de la critique de la raison pure qui nous accompagne cette semaine. Je renvoie à votre ouvrage Logique du phénomène, où vous revenez sur votre interprétation de Kant, notamment un ouvrage qu'on trouve chez Hermann, également Le bruit du sensible, c'était aux éditions du Cerf en 2013, et puis Éléments de philosophie réaliste en 2011 chez Vrin.
Show me that river and take me across and wash all of my troubles, wash them away. By that lucky old son ain't got nothing to do but roll around your heaven all day.
Et si l'on suit le soleil, il nous conduit directement à Géraldine Mosnas-Lavoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous vous êtes installée en studio en écoutant Aretha Franklin et donc vous venez comme tous les jours nous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître pour vos deux minutes papillon. Et aujourd'hui,
c'est le goût de l'absolu et ça ne sera pas Aretha Franklin mais ça va être Glenn Gould. L'univers du studio d'enregistrement est un milieu très cloîtré. C'est pourquoi je l'aime tant. Et lorsque je dis cloîtré, ce n'est pas au seul sens physique du terme que je parle. Ce dont je veux parler en réalité, c'est de l'idée que le studio constitue très littéralement un milieu dans lequel le temps peut tourner sur lui-même. Dans lequel, comme dans un cloître, on devient capable de s'abstraire de la poursuite effrénée d'une succession d'événements quotidiens, momentanés, éphémères. « Glenn Gould dans son studio, mais aussi Gatsby le magnifique et son baiser à Daisy, Louise Michel et le don de soi à la politique, ou encore le renoncement définitif mais infini de la princesse de Clèves, ou encore Camille Claudel et son acharnement à sortir de l'asile où on l'a jeté, tous témoignent, fiction ou réalité, imagination ou histoire, du goût de l'absolu. Et il y en a bien d'autres encore dans cette anthologie, Simone Veil, Antonin Artaud, Kafka, Giacometti, les frères Van Gogh. C'est donc une poignée de fanatiques de l'absolu qui sont réunis ici, en quelques pages, sous la forme d'une petite anthologie. Et ce petit livre est donc une entreprise bien étrange, car vouloir réunir quelques lignes d'absolu, vouloir contenir ce qui est forcément excessif, ce qui n'a pas de limite, semble précisément relever d'une entreprise impossible. De la même manière qu'Aurélien ne peut pas dire d'où vient le goût de l'absolu de Bérénice, il semble y avoir une impossibilité à saisir l'absolu en quelques pages. Et pourtant, de la même manière aussi que Glenn Gould évoque le lieu confiné du studio comme ce qui nous abstrait du quotidien, l'absolu n'a bizarrement pas besoin d'espace pour se déployer. Au contraire, Flaubert, de son côté, rêvait ainsi d'écrire un livre sur rien. Un livre, je cite, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Les œuvres les plus belles sont bien celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît.
Magnifique. On avait consacré, souvenez-vous, une semaine au forçat de l'absolu au Nouveau
Chemin. Je m'en souviens, et là, ça va complètement dans ce sens-là.
Ouais, et moi, j'aimerais, ça me rappelle que j'aimerais vraiment consacrer une semaine à Glenn Gould.
Ah, mais c'est une excellente idée. Ben voilà, il y a déjà quelques pages à travailler. C'est le goût de l'absolu. C'est au Mercure de France et c'est présenté par Elisabeth Parier.
Merci Géraldine, merci Jocelyn Benoît et merci à toute l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Pierre Brossard qui a préparé cette émission, Ariane Mintz, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui. Pour écouter l'émission et la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et notre compte Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Comment défendre la croyance, c'est la question que je poserai à Kant à travers mon invité, Pierre-François Moreau.